Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast qui donne envie de lire de Tout le monde lit. Aujourd'hui, Julie, Léa et moi-même, Victoria, élèves en Master Event à l'ECS Bruxelles, parlerons du plaisir de lire chez des adolescents. On se demandera si lire est dans l'air du temps pour les 10-17 ans, si les livres sont si ennuyeux qu'ils nous endorment, s'il faut interdire la lecture pour la rendre plus attrayante, et si la lecture est toujours considérée comme une activité intellectuelle rebutante.
Bonjour, alors pour répondre à votre question, est-ce que lire est un plaisir ? Moi je trouve pas lire parce que moi je trouve que c'est une perte de temps et quand je lis 2-3 pages, c'est bon, je veux changer, j'arrive pas à me concentrer. Je préfère sortir dehors, jouer au foot, faire du vélo, voir des amis, des choses comme ça. J'aime pas trop lire, je préfère regarder plutôt des films. Je regarde des films d'action, des séries, des trucs comme ça, j'arrive mieux à comprendre.
À travers ce podcast, nous allons donc nous interroger sur le plaisir de lire et voir comment donner envie de lire aux adolescents. Pour en parler avec nous, Sophie Gagnon, enseignante de français de formation. Elle a créé le site sophielit.ca pour lequel elle lit et commente plus de 250 œuvres pour adolescents et adolescentes chaque année. Également autrice en didactique et conférencière, Sophie Gagnon, on l'aura compris, est une passionnée de littérature jeunesse.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, lire est-il dans l'air du temps chez les ados de 10 à 17 ans ?
Lire est dans l'air du temps, surtout chez les adultes. En ce moment, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. C'est vraiment au centre de nos préoccupations, notamment en raison des résultats des élèves aux différents tests. Mais est-ce que c'est dans l'air du temps chez les ados? Oui et non, dans le sens où ce ne sont pas dans leurs priorités. Il faut que ce soit nous qui l'amenions. Ça peut le devenir. Ça peut tout à fait le devenir, et notamment avec les mangas en ce moment qui ont une montée fulgurante. Ça peut être vraiment très, très chouette, mais ce n'est pas nécessairement vers ça qu'ils vont se tourner d'abord, d'eux-mêmes.
En quoi lire peut-il procurer du plaisir quand on n'a pas l'habitude de lire et comment accéder à ce plaisir de lire?
Je ne sais pas ce que vous lisez, vous.
Un petit peu, quand même.
Si, si, quand même.
Voilà. Plutôt des romans, ce genre de choses.
Qu'est-ce qui vous donne envie de lire?
Le fait de s'évader, le fait de se créer un nouvel univers, toutes sortes de choses.
Et d'avoir envie de lire certaines choses. Pour moi, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut accéder au plaisir? C'est d'abord d'avoir envie de lire les livres qui sont là, d'avoir accès à des univers qui vont nous parler, qui vont nous permettre de s'évader, qui vont nous toucher, nous, personnellement. Donc, quand on n'a pas l'habitude de lire, on a l'impression que c'est très scolaire. C'est beaucoup lié au scolaire, à la lecture. On a l'impression que c'est des lectures qui sont obligatoires. On lit pour nos enseignants, on lit pour répondre à des questionnaires. Et on n'a pas nécessairement cette espèce de notion de « je lis pour m'évader, pour moi, pour des moments avec moi personnellement ». Donc, le meilleur moyen d'accéder à ça, finalement, c'est de donner envie de lire un livre qui va faire que ce livre-là va faire « ah oui, en fait, ça peut faire ça chez moi ». Et là, on ouvre une porte. Et là, on peut y aller de nous-mêmes, en fait, après.
Et est-ce qu'il existe des freins à l'envie et au plaisir de lire ?
L'obligation. L'obligation et tout ce qui est tout ce qui est examen, en fait, questionnaire, tout ce qu'on fait avec, parce que encore là, la lecture, c'est très scolaire et on lit les livres pour ensuite répondre à des questions, ce qui fait qu'on n'est pas dans le plaisir de lire. On est dans OK, il faut que je me rappelle la couleur du chien du voisin parce qu'on va peut-être me le demander lors de l'examen. Et puis c'est vraiment important d'arriver à faire un résumé, alors je vais prendre des notes, mais alors je suis pas dans le livre parce que je dois m'arrêter à chacune des pages pour prendre des notes pour savoir ce qui va se passer. Donc je suis pas dans le plaisir. Donc la meilleure façon, en fait, de susciter le plaisir, c'est oui, quelque part l'obliger dans le sens où on veut créer des espaces où on va lire à l'école. Parce que c'est là qu'on les a, qui sont là un peu prisonniers, ils n'auront pas le choix de nous suivre. Mais on veut créer des situations de classe où en fait ça va ressembler à la réalité le plus possible.
S'évader dans des univers imaginaires par la lecture, est-ce une nécessité pour les enfants?
En fait, c'est drôle parce que alors vous associez nécessairement l'imaginaire et la lecture. Alors que la lecture, ça peut aussi être la lecture documentaire, par exemple. La lecture pour apprendre des choses. Et il y a des enfants qui vont pas se considérer comme lecteurs-lectrices parce que pour eux, bah, ils lisent des documentaires, ils vont lire les journaux, mais ils vont pas lire des romans, ça leur parle pas. Et donc, eux vont pas considérer comme lecteurs-lectrices parce qu'on a cette impression que, en fait, être un lecteur-lectrice, c'est lire les grands classiques. C'est souvent ça. Les adultes aussi pensent souvent ça. Alors, c'est lire des romans intellectuels et vraiment brillants, alors que c'est pas nécessairement ça. Donc, ça peut être plein de choses. Mais c'est sûr que l'imaginaire est hyper important. Être capable de... En fait, ça développe l'empathie chez les enfants aussi. Ça développe l'ouverture au monde. Dans l'imaginaire, oui, mais aussi dans notre réalité. Harry Potter, a ouvert plein de portes à plein de gens, mais aussi nous a parlé de l'entraide, de la loyauté, de la construction de soi-même. Donc, même si on est dans l'imaginaire, en fait, c'est des thèmes qui viennent nous toucher, nous, particulièrement. Donc, c'est aussi travailler, justement, l'imaginaire des enfants, qu'ils arrivent à se développer leurs propres univers, alors que quand on est au cinéma, à la télé, ce cher Netflix, ben, en fait, les images sont toutes faites aussi. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir ça et dire, est-ce qu'on est capable de nous-mêmes se créer nos propres images quand on lit?
D'accord. Et est-ce que vous pensez que certains styles littéraires, du fait qu'ils soient genrés, est-ce qu'ils limitent l'envie de lire aux enfants?
Cette question-là m'a vraiment fait rire parce que, alors, j'aimerais savoir quels sont les styles littéraires que vous voyez comme genrés?
Bon, les princesses. Imagine, voilà, les histoires de princesses.
Les histoires de pirates.
Pour les filles et puis voilà, des choses plus de combat, j'ai envie de dire, pour les garçons, peut-être.
Parce que les filles ne liraient pas des livres de combat.
Si, bien sûr.
Mais justement, mais... Nous, à l'époque, quand on était petits, c'était très genré. Les pirates, c'était pour les garçons. Les princesses, c'était pour les filles.
Ça change de plus en plus. Je pense que dans la mouvance de la littérature jeunesse, il y a vraiment de plus en plus des princesses qui sont aussi guerrières et des garçons qui lisent des histoires avec des personnages principaux féminins parce que ça les attire, parce que l'histoire est vraiment intéressante aussi. Donc, on est vraiment en train de défaire ça. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut travailler à la base, qu'on travaille avec les petits. On travaille beaucoup dans les albums. Quand on est au primaire, en maternelle, c'est leur faire lire une diversité de textes qui vont leur montrer qu'il n'y a aucune barrière. Parce que oui, ça peut être gênant d'arriver en secondaire et de se dire, OK, moi, le livre que j'ai envie de lire, par exemple, c'est le truc plus psychologique et plus doux pour un garçon qui, devant les autres, va des fois avoir un regard un peu extérieur, difficile. Mais si c'est travaillé en amont, il n'y a aucune limite, en fait. On peut vraiment se laisser aller et lire justement ce qu'on veut. J'ai déjà un élève qui m'avait dit, vous savez, moi, madame... J'ai un secret à vous dire. J'ai dit, OK, d'accord. Moi, j'ai lu tous les Léa Olivier, qui est très genrée fille, la série Léa Olivier. Et j'ai dit, OK, d'accord. Dit, ma sœur les a tous à la maison et je les ai lus. OK. Il dit, maintenant, je sais ce que les filles pensent. Et je dois avouer que ce garçon a eu énormément de succès tout au long de l'année scolaire auprès des filles. Je trouvais que c'était vraiment très fort. Alors, je dis, tu devrais peut-être en parler à tes copains. Il me semble que c'est une bonne idée à partager autour de toi de lire ça. Et donc, lui était plus, justement, ses secrets. Moi, je le fais pour moi-même. Mais en fait, au final, ça lui a porté que du bien. Donc, il faut abaisser ces barrières-là.
Et quels sont les bienfaits de la lecture et est-ce qu'elle apporte des compétences supplémentaires?
Alors, les bienfaits de la lecture, je pense qu'on en a parlé depuis le début quand même. Oui, s'évader, développer l'empathie, développer la compréhension au monde et développer la compréhension de façon générale. C'est-à-dire que dans notre monde, si on ne sait pas lire, et on ne sait pas lire, là, on ne parle pas de décoder. Hein. Beaucoup de gens qui peuvent décoder, mais de l'analphabétisme fonctionnel, ça existe. C'est-à-dire que je peux lire des choses de base, mais je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas le monde dans lequel je suis. Donc, c'est vraiment important de développer cette compréhension-là. Puis, plus on va lire, plus on va développer la compréhension. Et donc, au final, l'idée, c'est de les amener à lire davantage. Et en fait, on va développer vraiment plein de choses, mais c'est aussi à l'école, les élèves qui ont de la difficulté en lecture ont de la difficulté dans beaucoup d'autres matières. Parce que quand vous êtes en histoire, quand vous êtes en géographie, quand vous êtes en peu importe, même en mathématiques, des questions avec beaucoup de textes et beaucoup d'éléments, ben, si on n'a pas la compréhension de lecture, on n'arrive pas à faire, même si on est doué en mathématiques. Donc la lecture sous-tend vraiment tout le reste. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important.
Maintenant, en tant qu'enseignante, comment motiver les élèves à lire?
Alors, d'abord, il faut donner du temps. Le temps, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on dit « Bon, j'ai pas le temps en classe, mais vous allez lire ce soir à la maison 15 minutes. » Ça fonctionne pas. Parce que si moi, j'ai pas le temps de le faire en classe, je pense pas que mes élèves, surtout s'ils sont non-lecteurs et réfractaires, vont prendre 15 minutes de leur soirée pour lire un livre, surtout si le livre les intéresse pas. Donc, il faut, un, donner du temps en classe, et ensuite, du temps de qualité, c'est-à-dire pas du temps « Ah, j'ai terminé l'activité, donc OK, maintenant, on lit. » Si je vous dis « Maintenant, on arrête le podcast, puis on lit », vous allez dire, ben, j'ai pas de livre, je suis pas prête, j'avais pas ça en tête. Alors que si c'est ritualisé, alors c'est plus facile de se mettre dans un état d'esprit où tous les jours, à 13 heures, je vais lire pendant 15 minutes, ben, je rentre de dîner, je sais ce qui va m'attendre, donc je suis prêt mentalement. Et avec des livres de qualité, c'est-à-dire des livres qui vont les intéresser, qui vont aller rejoindre leurs intérêts. Et là, on parle de romans, mais on parle de bandes dessinées, de mangas, de documentaires. Donc vraiment avoir une pluralité dans l'offre, et aussi des livres qui vont être à leur niveau, parce qu'on sait que si on lit des livres qui sont trop compliqués, ben on n'accède pas au sens non plus. Donc, il y a plusieurs avenues. Pour moi, c'est aussi leur laisser le choix. C'est-à-dire que obliger un livre en particulier, ça peut être bien pour se créer une culture commune, ça peut être bien pour observer des choses dans le livre, pour vraiment l'analyser, mais c'est pas ça qui va donner envie à tout le monde de lire. Donc, ce qui va susciter le plaisir, c'est de trouver son livre à soi, qui va être différent. Alors, on est quatre autour de la table, bien, vous avez probablement quatre livres préférés. On a quatre livres préférés différents, on aime des genres différents aussi. On va se rejoindre sur certains points, mais on a aussi des zones qui sont vraiment à nous et qui sont nos zones de lecture potentielles extraordinaires préférées.
Et quels sont les gestes concrets, les activités à proposer? Du coup, les ateliers lecture à certaines heures de la journée?
Oui, vraiment un cadre, 15 minutes de lecture par jour, où on place vraiment ça dans la journée, mais aussi, en fait, beaucoup faire discuter les élèves de leur lecture. C'est-à-dire qu'amener les discussions littéraires, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Moi, je peux suggérer des livres, mais si les élèves reviennent tous les jours et disent « Ah, mais moi, j'ai lu ça, il s'est passé telle chose, ça, c'est vraiment bon, OK, d'accord. » C'est là aussi qu'on va créer une communauté de lecture, c'est-à-dire qu'ils vont se motiver les uns les autres. Il y a beau avoir la prof qui dit « Ce livre-là est extraordinaire », c'est une prof. Genre, c'est un autre monde. Donc, des fois, la prof a la même goût que nous, des fois, pas du tout. Alors, laisser les jeunes se parler entre eux, puis c'est aussi parler de nos lectures, c'est partager un plaisir, c'est vouloir aller plus loin. C'est quand on a un problème dans la vie et qu'on ne trouve pas de solution, souvent on va aller se tourner vers nos amis, puis on va leur demander des conseils, on va leur parler de notre situation, on va leur demander des conseils. Ça devrait être la même chose avec les livres. Je suis avec un livre, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, je bloque sur un truc, qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Ben, les discussions littéraires peuvent vraiment créer beaucoup de choses dans
les classes. La lecture d'extraits à voix haute est-il motivante pour les ados?
Oui, c'est vrai que sur le site sophilie.ca, on a un espace où, en fait, on a une zone écoute où on a demandé à des auteurs et autrices de lire des extraits de leurs romans. En fait, ce que je trouvais intéressant, j'aime beaucoup l'idée de la lecture à voix haute, parce que pour des lecteurs, lectrices expertes, aller lire des quatrièmes de couverture, lire un début de roman, ça se fait quand même bien, on peut savoir tout de suite qui va nous plaire ou pas. Pour des lecteurs plus réfractaires, en difficulté, c'est compliqué. Déjà, lire des quatrièmes de couverture, ça ne les intéresse pas vraiment, surtout si c'est un peu long, ils lâchent. Et ils vont beaucoup se fier aux couvertures des livres qui ne sont pas toujours vraiment efficaces. Il y a des couvertures de livres qui sont magnifiques pour des livres qui sont au final pas très bons. Et il y a des couvertures de livres pas très belles qui, au final, sont pour des histoires vraiment très chouettes. Et donc, l'idée, c'est de les amener à découvrir des livres autrement. Et donc, je me disais, avec des extraits, c'est bien parce qu'eux peuvent juste entendre des bouts de romans, savoir si ça va leur plaire, si le style peut leur parler aussi. Et l'idée d'inviter les auteurs et les autrices à l'enregistrer eux-mêmes, c'est pour dire... Moi, il y a des gens que j'ai entendu parler beaucoup, par exemple Timothée de Fombelle en littérature pour ados, que j'adore. Je l'ai beaucoup entendu parler en entrevue, mais aussi lire des extraits de ses romans. Et maintenant, quand je les lis, c'est lui que j'entends. J'entends sa voix, j'entends sa tonalité, j'entends son style, et je trouve ça extraordinaire d'avoir accès à ça. Parce que quand c'est l'auteur, l'autrice qui lit son œuvre, en fait, on a aussi son rythme. Comment lui, elle, a pensé l'histoire. Et donc, je trouve ça vraiment chouette d'ouvrir ça, en fait.
Et donc, pour vous, ça permet de mieux incarner une histoire quand c'est l'auteur qui la lit?
Il y a des auteurs qui n'ont pas des voix extraordinaires, disons-le. Donc, ça peut dépendre, mais je pense que c'est une belle porte d'entrée, puis c'est un beau contact avec l'œuvre aussi.
D'accord. Et expliquer le thème et la proposition de l'auteur d'un livre aux adolescents, est-ce que c'est motivant? Est-ce que ça stimule l'envie de lire?
Ce qui est chouette avec les ados, moi je fais beaucoup ça, me promener dans des classes et débarquer avec plein de livres, en fait, et leur dire OK, lesquels on parle. En fait, ce qui les intéresse, c'est le déclencheur, c'est l'accroche. Donc, la meilleure façon d'intéresser un ado à lire un roman, c'est d'arriver avec ce qui va vraiment aller les intriguer, c'est de créer un peu de mystère, c'est de montrer juste les personnages, les thèmes. Oui. Mais c'est très large. Présenter l'auteur, l'autrice, oui, mais encore là, c'est large. C'est vraiment, c'est le récit, en fait. C'est l'histoire. C'est la même chose quand nous, on cherche une histoire, une série Netflix, Disney Plus et compagnie. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant les acteurs, c'est pas tant le réalisateur, c'est qu'est-ce que ça raconte. Ben, c'est la même chose pour les livres. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, la meilleure accroche, finalement, c'est d'aller chercher ce que ça raconte, ce que ça peut susciter comme impression aussi, quand les ados accrochent beaucoup à la peur, là. Donc, aller chercher, voilà, ça peut vraiment interpeller ce sentiment-là. Ben, c'est une belle façon de les accrocher aussi. Ou lire les débuts. Il y a des débuts qui sont vraiment très réussis. J'aime bien lire le début pour essayer d'aller les chercher aussi.
Et malgré qu'il y ait une bonne approche, certains adolescents semblent quand même éprouver des difficultés pour rester concentrés lorsqu'ils lisent. Comment est-ce que vous y remédiez et dans quel environnement et à quel moment faut-il
En fait, souvent, ceux qui ont des difficultés, ça s'explique par plusieurs choses, mais c'est des difficultés souvent qui viennent du primaire aussi. Et souvent, c'est au niveau de la troisième année primaire où ça décroche, parce que alors les textes deviennent plus longs, plus complexes, et là, les difficultés entrent en jeu. Et ces élèves-là, souvent, ont décroché à ce moment-là. Et donc, ils lisent plus depuis qu'ils sont petits. Ce qui fait que lire plus grand et reprendre ça, c'est compliqué. Et donc, la meilleure des façons, c'est de les faire lire, oui, mais surtout de leur faire lire des textes à leur portée. Donc, des textes qui vont être plus courts, plus allégés, plus punchés. Il y a la collection Flash Fiction chez Rajo, qui est vraiment extraordinaire. Chez Casterman, la collection Hanté aussi est chouette, parce que c'est des textes qui sont assez courts. Mais l'idée, c'est de dire, OK, je te donne un texte qui sera pas trop compliqué, que tu peux comprendre et dans lequel tu vas embarquer, et pour recréer la confiance, en fait, entre l'ado et le livre. Parce que si on leur donne des livres trop compliqués, ils vont décrocher encore, ils n'embarqueront pas et les difficultés vont rester. Et donc, voilà, là, on ne les aura pas pour le plaisir.
Vous avez été enseignante pendant 9 ans. Quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué?
Alors, une année, j'ai eu une très, très mauvaise idée avec mes élèves. J'avais des romans obligatoires. Hein. Quand je suis rentrée dans mon milieu, tout le monde avait des romans obligatoires et je ne suscitais pas des plaisirs des lecteurs, lectrices. Ça me perturbait beaucoup, moi, ayant toujours lu à mort depuis que j'ai appris à lire. Et donc, une année, j'ai dit, OK, on fait un pacte. Vous lisez mes 6 romans obligatoires et en échange, vous me suggérez chacun un livre à lire. J'avais 96 élèves qui se sont réunis pour me faire une liste de 96 livres différents, dont la Bible. Imaginez ma joie. Alors j'aurais dit, bon, moi tous mes romans obligatoires je les ai lus, alors sachez que vous devez, les romans qui sont sur cette liste là il doit y avoir au moins une personne qui l'a lu, sinon ça fonctionne pas bien sûr. Et donc ils m'ont refait une liste. Il y avait toujours 96 livres différents. La Bible était disparue. T'es bien contente. Mais c'était l'époque Twilight, Percy Jackson et compagnie, et je suis tombée là-dedans comme Obélix dans la marmite, c'est-à-dire que moi je me suis mise à lire énormément de littérature pour ados. Mais surtout, mes élèves, cette année-là, ont lu énormément de littérature pour ados aussi, parce que je revenais en classe et je faisais des liens. OK, mais ce personnage-là, en fait, il ressemble à tel autre de notre roman obligatoire, on peut faire des liens. OK, moi, j'ai vraiment pas aimé ce livre-là. J'ai détesté Percy Jackson. Percy Jackson. Parce que, non, mais c'est bien écrit, c'est hyper efficace. C'est juste qu'à la fin du premier, il bat le chien des enfers en lui lançant une balle rouge, et ça m'a énervée à mort, parce que il y a toute la montée dramatique, il affronte plein de monstres, plein de trucs super compliqués, et à la fin, c'est supposé être le gros truc. Et il lui lance une balle. Ça m'a énervée. Et donc, je suis revenue en classe en disant ça. Pas que c'est pas bon, hein. J'ai dit, moi, j'ai pas aimé ça. Pour telle raison, j'ai expliqué à mes élèves. On a eu une conversation très intense avec celui qui me l'avait suggéré. Et à la fin de cette année-là, sur mes 36 élèves de ce groupe, il y en avait 32 qui avaient lu Percy Jackson. Pour embarquer dans la conversation, pour être d'accord avec moi ou pour être contre moi, pour savoir de quoi on parlait, en tout cas, parce qu'on en a parlé vraiment beaucoup. C'est le livre qu'on a le plus analysé de l'année scolaire, je pense. Mais il s'est passé quelque chose. Et c'est là que j'ai vu que de lire des romans pour ados, d'en parler à mes élèves, ça faisait en sorte qu'ils devenaient lecteurs, lectrices, vraiment de façon magique, finalement. Et donc, j'ai ouvert cette porte-là et c'est ce qui a, moi, changé mon enseignement, mon approche, et qui fait que maintenant, ben voilà, j'essaie de propager ça partout.
Mais du coup, c'était une bonne idée.
C'était une excellente idée. Mais oui, c'était une excellente idée, peut-être pas dire... des romans obligatoires, 96 quand même, ça faisait beaucoup. mais c'était très chouette.
Vous faites des fois des parallèles avec les films pour donner envie de lire, justement, parce que souvent des films sont adaptés de romans.
Ouais, ça m'arrive, mais généralement j'essaie de suggérer des livres qui sont pas encore en film,
ouais.
Parce que sinon ils vont aller voir le film. Non. Voilà. Et donc, ils vont se dire, j'ai pas besoin de lire le livre. Et donc, c'est mieux pour moi. Ce qui fonctionne le plus, c'est de donner envie de lire une histoire. Et qu'ils font, oh, est-ce qu'il y a un film? Ouais, non.
D'accord.
Tu vas devoir lire le livre. Et là, c'est chouette parce que ça crée autre chose. Mais en même temps, le film peut aussi aider des lecteurs plus récalcitrants des fois parce qu'ils ont déjà une image. Ils voient les personnages, ils ont une idée du décor, ils connaissent ce qui s'en vient. Moi, personnellement, si j'ai vu le film, je suis pas intéressée par le livre parce qu'on dirait que je suis déjà à la fin. Donc, ça me garde moins actif. Mais ça dépend encore là des personnes.
Vous venez du Québec?
Ça s'entend.
Oui, un petit peu. Y a-t-il des différences dans les pratiques de lecture entre la Belgique et le Canada?
En fait, au Canada, il y a vraiment depuis quelques années une montée de la lecture en primaire. Donc, il y a beaucoup, il y a des groupes, j'enseigne à de la littérature jeunesse, les ateliers de lecture et d'écriture au primaire. Donc, on travaille énormément avec les livres au primaire et ça se ressent dans les élèves qui arrivent au secondaire aussi, qui sont beaucoup plus habitués d'être en contact avec des livres, d'avoir d'avoir lu et d'avoir lu en quantité aussi. En Belgique, souvent, on fait des rallyes lectures, mais souvent, les rallyes lectures, c'est tu dois lire le plus de livres possible et pour cocher des cases et répondre à deux, trois questions pour dire que tu les as lues, mais on ne fait pas nécessairement de lien, on ne fait pas nécessairement de sens avec ces lectures-là. Et donc, on est dans cette idée de quantité, mais qui ne sert à rien, alors que là, on essaie vraiment d'intégrer les livres dans le sens et dans la vie quotidienne, ce qui fait que ça fait en sorte que les élèves sont plus lecteurs quand ils arrivent à l'adolescence. Et donc, quand on décroche un peu, ben, ils ont quand même ce lien-là qui est très fort. Ici, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Il y a des classes extraordinaires. J'ai vu des classes de primaire avec plein de livres. J'ai vu des profs vraiment très, très motivés. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de livres en classe. Il y a beaucoup d'écoles primaires où il y a pas de bibliothèque. Où il y a une bibliothèque et elle est ouverte 15 minutes par semaine où on peut aller. Ce qui fait que ces enfants-là, n'étant pas en contact avec les livres et peut-être pas à la maison, ben, arrivent à l'adolescence en ayant été très, très peu en contact encore. Et là, on a des œuvres à lire obligatoirement, à analyser. On essaie d'amener leur esprit plus loin, mais si on n'est pas habitué à observer des œuvres, à les analyser, à faire des liens entre elles, en primaire, c'est difficile d'amener ça au secondaire. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui doit être créé à la base, mais il faut avoir plus de livres en classe.
Ouais. Notre question pour conclure, on se demandait si ne pas lire par manque de temps, c'est vraiment une excuse bidon.
En fait, si on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'est pas en train de lire le bon livre. On n'est pas en train de lire le bon livre. Parce que si vous commencez un livre, disons le 15 minutes de lecture par jour à l'école, tu commences un livre qui t'intéresse vraiment beaucoup. Au bout du 15 minutes, tu es frustré. Tu veux savoir la suite. Donc, le soir, tu vas te créer du temps. Tu vas avoir du temps en attendant le bus. Oui, il y a ton téléphone, mais tu veux savoir la suite de l'histoire. Alors que si tu n'as pas commencé de livre, ben, tu n'as pas le temps parce que ça ne t'intéresse pas. Ou si tu es en train de lire un livre vraiment ennuyant, tu n'as jamais le temps de l'avancer parce que tu as plein d'autres choses à faire. Donc, il faut trouver le bon livre dans ce temps de qualité obligatoire, finalement, pour faire en sorte qu'on va s'en créer ailleurs. Donc, quand on dit « je manque de temps », pour moi, c'est en fait, je suis pas en train de lire le bon livre.
Et donc c'est vraiment une excuse bidon.
C'est une excuse bidon. Oui, parce que il y a des gens qui ont besoin d'avoir vraiment des circonstances très particulières là, qui doivent être dans le silence, donc ils vont attendre d'être le soir ou dans leur bain, par exemple, pour lire un livre. Puis, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent lire partout. C'est juste qu'on choisit la facilité, genre le téléphone. Pendant ce temps-là où on attend le bus, on attend que quelqu'un vienne nous voir ou voilà. Tout à l'heure, quand je vous attendais que ce soit prêt, j'ai sorti un livre. Parce que l'histoire m'intéresse, puis je veux savoir ce qui va se passer avec le personnage. Donc, il y a ça. Il faut trouver ce bon livre-là, puis le temps va se créer tout seul.
Cet épisode a été écrit et monté par tous les élèves de Master Event de l'ECS Bruxelles. Merci à Marwan pour sa participation et ses réponses à nos questions. Merci Sophie Gagnon pour votre disponibilité et votre expertise. On vous souhaite plein de belles choses et de continuer à répandre votre passion pour la lecture au plus grand nombre et dans le monde. On se retrouve vite au prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous évader en lisant.